18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver. Bonjour, chers amis auditeurs, partout en France, si vous nous écoutez. Les Informés, votre émission, 18h, 19h30, nous sommes ensemble. Ensemble au menu ce soir. Qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, tout simplement d'aller en Algérie pour aller rencontrer, vous savez, celui qui était venu sur le plateau, le président du conseil départemental du 93 de la Seine-Saint-Denis. Il sera avec nous, justement, monsieur Stéphane Roussel, il sera avec nous en direct depuis l'Algérie, justement. Ensuite, j'ouvrirai le Quoi de Neuf, d'abord, le Quoi de Neuf avec Pascal Boniface, qui reviendra sur les sujets d'actualité. Et puis, tout à l'heure, au 01 53 48 3000, on reviendra sur l'agression qui a été filmée dans une laverie en Essonne. Chacun fait son compte, régler son compte. Une vidéo qui a été très partagée sur les réseaux sociaux. Figurez-vous, un homme se fait frapper par plusieurs jeunes de Évry-Courcouronnes. Bon, eh bien, l'enquête a été ouverte, sauf que là, on a le sentiment que, bon, en tout cas, il y a une chasse à l'homme à Évry, sachez-le, pour retrouver ces jeunes qui ont frappé brutalement ce client dans une laverie. Ensuite, les débatteurs influenceurs, ils seront avec nous tout à l'heure pour débattre des sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur l'interview hier sur France 2 d'Emmanuel Macron, justement, qui était en direct. A-t-il été convaincant ? On parlera aussi de toutes les déclarations, sa colère face à la NUPES, main dans la main avec le Rassemblement National. On reviendra aussi, vous savez, sur les autres sujets, le 49-3, mais également aussi Agnès Buzyn et les vérités, le Covid-19, mais également aussi la guerre en Ukraine. Voilà le programme que je vous propose, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Stéphane Troussel, le président du département 93 de la Seine-Saint-Denis. Monsieur le président, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour.
Bonjour. Vous m'entendez?
Oui, très bien.
Oui, vous m'entendez?
Très, très, très bien. Je vous entends. Merci d'être avec nous, monsieur le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 93, monsieur Stéphane Troussel. Vous êtes en direct de l'Algérie. Quelle ville précisément d'Algérie?
Ben là, je suis de retour sur Béjaïa, puisque je m'étais rendu dans la wilaya de Béjaïa, mais du côté du village d'Agbou, où se déroulait un tournoi de foot féminin en salle, auquel participait une équipe de Seine-Saint-Denis, l'équipe de Bondy. Voilà, donc nous rentrons là vers Béjaïa avant une rencontre ce soir avec de très nombreux maires de la wilaya et le président de l'Assemblée populaire de la Wilaya de Béjaïa.
Stéphane Troussel, monsieur le président, je m'adresse à vous puisque vous êtes depuis quelques jours maintenant en Algérie, où vous sillonnez les différentes villes. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous rencontré? Qu'avez-vous observé? Et quel a été l'objet, évidemment, de votre déplacement en Algérie? Monsieur le président.
Oui, en effet, je suis depuis lundi soir en Algérie. J'y ai d'abord, j'ai envie de vous dire ça et de dire à tous vos auditeurs, reçu un accueil très très chaleureux, vraiment dans l'ensemble des communes, des villages rencontrés avec les personnalités, les élus, parlementaires et surtout les habitants eux-mêmes. J'ai rencontré en arrivant à Alger l'ambassadeur de France. J'ai tenu absolument à dans cette année 2022 d'anniversaire, du 60e anniversaire de l'indépendance, à me rendre au monument aux martyrs. Et puis, une étape à Tizi Ouzou, dans la Wilaya, où nous sommes allés rencontrer des habitants très mobilisés sur les questions de protection de l'environnement et de propreté dans leur village. Et puis, depuis deux jours, dans la Wilaya de Béjaïa, avec vraiment des échanges très nombreux, très divers sur tous les sujets de coopération sur lesquels nous avons déjà travaillé ensemble et sur lesquels nous pourrions renforcer nos liens. Je pense aux questions sportives, alors que la Seine-Saint-Denis...
On a été coupé. C'est le direct, hein, le direct justement, c'est le live. Monsieur Troussel, Stéphane, on le rappelle, on va le rappeler parce qu'effectivement on a un souci de communication. Quand c'est comme ça, effectivement, vous le savez, c'est le live, c'est le direct, ça prouve bien que nous sommes en direct. Je vous invite évidemment tout à l'heure, à partir de 18h20, vous le savez, à venir vous empresser au 01 53 48 3000 justement pour venir parler. Vous savez, on a parlé, peut-on se faire justice soi-même avec l'affaire de Rouen, notamment, non, où une milice s'est constituée pour retrouver celui qui avait tué cette jeune femme. Et puis maintenant, une chasse à l'homme à Ivry-Courcouronnes pour retrouver les agresseurs après la diffusion d'une vidéo où des jeunes frappent très brutalement un client dans une laverie. Aujourd'hui, vous voyez bien que la société est en train de prendre une autre tournure. Et bon, on veut qu'on en parle. C'est aussi notre rôle, ici, aux informés sur Beurre FM. C'est notre rôle parce que ça nous concerne tous de notre quotidien. J'ai le sentiment, je vous le dis clairement, que parfois, notre société est en train de devenir de plus en plus violente. C'est mon sentiment, avec tout ce que je vois. Ou alors peut-être qu'on en parle un peu moins, parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec les chaînes de news qui se sont multipliées, peut-être que, certainement, avons-nous le sentiment que, évidemment, qu'on a un peu plus d'écho sur ces faits divers. C'est peut-être aussi le cas. Bon, on va en parler, on prendra le temps d'en parler tout à l'heure à partir de 18h20. On va essayer de se reconnecter donc depuis l'Algérie avec Stéphane Troussel, le président du conseil départemental qui est à Béjaïa en ce moment même. Et je pense qu'on a retrouvé la ligne. C'est le direct, monsieur le président.
Exactement, exactement. Donc en tout cas, de beaux sujets possibles de travail en commun. Le sport, les Jeux Olympiques et Paralympiques, le football féminin... les questions d'environnement, de participation et de mobilisation des jeunes, de formation aussi des élus autour des questions de finances et de gestion publique, voilà. Et puis surtout concrétiser par des actes aussi l'amitié entre nos deux peuples. Moi, j'y crois beaucoup. Ça a son importance à la fois pour l'Algérie, mais aussi pour la France et en particulier pour un département comme la Seine-Saint-Denis.
Est-ce qu'il y a des partenariats que vous allez nouer d'ailleurs avec certaines communes ou surtout avec des départements? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, monsieur le président? Je pense qu'on a un vrai problème de connexion, effectivement. On va le rappeler. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il doit y avoir, je pense, un problème technique sur la ligne. Ça arrive souvent, d'ailleurs, hein, quand on appelle l'étranger. Ça nous arrive très régulièrement, effectivement, quand on fait des lives, surtout sur une ligne de portable où, parfois, la communication est aussitôt interrompue, effectivement. Et c'est le live, c'est comme ça, c'est le direct. Et on est là pour faire vivre tout cela. Allez, nous allons nous reconnecter, justement, avec Stéphane Troussel, qui est le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Du 93, vous pourrez intervenir tout à l'heure, réagir aussi au 01 53 48 3000, aussi par rapport à évidemment à ce qui nous fait observer justement. Allez, 18h10, en attendant peut-être de retrouver Stéphane Troussel, nous allons essayer d'avoir Pascal Boniface qui est le comment dirais-je, avec son quad neuf. Mais bon, on me fait signe. J'essaie de, vous savez, en même temps, de combler, quand on a des couacs comme ça en direct, de combler pour éviter, évidemment, d'essayer de retrouver Stéphane Troussel, le président du conseil départemental. Bref, allez, en attendant le président de région, ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver le quad neuf. On va appeler Pascal Boniface. Pascal Boniface pour son quad neuf, justement. Et on va le retrouver dans une poignée de seconde, justement. Mais vous aussi, au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Chasse à l'homme à Ivry-Courcouronnes pour retrouver des agresseurs. Est-ce que c'est normal, évidemment, aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que c'est un homme âgé, d'un certain âge, qui s'est fait agresser gratuitement par un groupe de jeunes dans une laverie automatique? En Seine-Saint-Denis, justement, on parle de la Seine-Saint-Denis. Et ça a fait le tour des réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont été choqués. Beaucoup de gens ont été heurtés. Alors, nous recherchons l'endroit exact, les agresseurs et le père afin de l'accompagner juridiquement. C'est ce que disent certains témoins. Les images, je ne sais pas si vous les avez vues, elles sont très violentes. Elles ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Notamment, vous savez... ça s'est passé dans le 93. Il a été confié au commissariat local, justement, qu'il fallait absolument identifier l'auteur de l'agression. Eh ben, il faut qu'on prenne le temps de parler de tout ça. Parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce qu'on a retrouvé la liaison? Pas du tout. Nous avons un problème. Allez, on tentera de reprendre donc le président du conseil départemental du 93 dans une poignée de secondes. Pour l'heure, c'est le quoi de neuf.
Les informés. Les informés. Le quoi de neuf.
Et j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure au 01 53 48 3000. Pascal Boniface, bonjour. Le patron de l'IRIS. Comment ça va, mon cher Pascal Boniface?
Bah, très bien, Adil, très bien.
Vous enchaînez les débats. Je vous ai vu encore dans les médias, effectivement, commenter la guerre en Ukraine. Ça va? Ça se passe plutôt bien?
Bah, écoutez, non, les guerres se passent rarement bien. Et là, je crains qu'on en ait pour longtemps. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'accord de paix. Et les deux protagonistes ne sont pas épuisés. Donc, ils vont continuer.
Alors, on vous écoute pour votre billet d'humeur, le quoi de neuf. C'est à vous la parole, comme dirait l'autre.
Voilà, bah, je voulais vous parler un peu de la Chine, puisque le congrès du Parti communiste vient de se terminer et que Xi Jinping, sans surprise, le suspense n'était pas vraiment insoutenable, a été réélu pour une période de 5 ans à la tête du Parti communiste. Il vient un peu briser une règle que Deng Xiaoping avait établie, de dire qu'un dirigeant ne doit pas faire plus de 10 ans, sinon on risque de retomber dans les travers du pouvoir absolu de Mao Tse-tung, qui avait fait tant de mal au pays, la grand bond en avant qui est un grand bond en arrière, la grande révolution culturelle prolétarienne. Xi Jinping, bah, lui, pense qu'il est le seul à pouvoir sortir la Chine de l'ornière, et donc il a mis fin à cette règle, et il va de nouveau exercer le pouvoir pour les 5 prochaines années. Et en fait, bah, c'est l'homme le plus puissant du monde, parce que certes, la Chine est moins puissante que les États-Unis, mais il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas un congrès pour l'embêter, il n'y a pas une presse pour le harceler, il n'y a pas des sondages tous les jours pour le freiner. Donc oui, la Chine est moins puissante que les États-Unis, mais Xi Jinping, en fait, a beaucoup plus les mains libres que Joe Biden ou que n'importe quel autre dirigeant. La Chine se développe à une vitesse, disons que c'est quand même sidérant. Ils faisaient 10% du PIB américain en 2001, ils en font 70% aujourd'hui. Et donc la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis, mais de savoir quand est-ce que cela va survenir, et probablement avant une génération. Mais en même temps, là, peut-être que ce pouvoir absolu, ce pouvoir personnel peut être un frein. La politique du zéro Covid a restreint un peu. Il n'y a plus de circulation entre la Chine et le reste du monde. Donc les échanges universitaires, intellectuels sont moins... Voilà, c'est un pays qui respire moins. Et donc peut-être que finalement, l'un des problèmes de la Chine, ça serait justement ce pouvoir absolu avec pas de contre-pouvoir qui sont toujours utiles pour faire progresser un pays. Donc la Chine a des atouts, mais elle a également des freins, et donc il faudra voir si on voit que la concentration du pouvoir autour de Poutine l'a conduit à faire des erreurs dramatiques. Il faudrait voir si cette concentration à terme ne produit pas les mêmes effets dramatiques sur la Chine.
Excellent, bravo pour ce billet d'humeur, mon cher Pascal Boniface. Toujours excellent ces analyses, évidemment, avec beaucoup de décryptage. Merci, mon cher Pascal Boniface. Il me semble que vous êtes en plein débat, donc je vous souhaite un bon débat.
Oui. Merci Adil, à très bientôt, au revoir.
À très vite, à jeudi prochain sans faute. Nous avons retrouvé la liaison avec le Stéphane Troussel, le président du conseil départemental justement. Il est à Béjaï en ce moment même. Bonsoir, rebonsoir mon cher président. Décidément, on a des problèmes de connexion.
Ouais, je crois qu'on n'y arrive pas.
Bon,
ouais, mais on n'y arrive pas là.
On y arrive, alors, effectivement, on n'y arrive pas, mais d'une phrase, qu'attendez-vous, que tirez-vous comme bilan, effectivement, de votre séjour en Algérie, mon cher président?
D'abord, encore une fois, un accueil très chaleureux et je l'espère des thèmes de travail en commun, de coopération et de renforcement de nos liens d'amitié au service de nos deux peuples. Voilà, c'est ça.
Je posais ma question, j'espère qu'on ne va pas être interrompu. Est-ce que vous allez nouer des partenariats de département à département, justement, avec l'Algérie?
Je le souhaite en étant respectueux, bien sûr, à la fois de la volonté de nos partenaires et puis aussi des cadres législatifs et réglementaires qui s'appliquent aux collectivités algériennes et aux collectivités françaises. Et donc, c'est ce qu'on va examiner dans les prochaines semaines.
Quel est votre souhait le plus cher, évidemment, de votre passage en Algérie?
Bien que ce soit, encore une fois, un renforcement de nos liens d'amitié et justement de montrer à tous ceux qui, en France et aussi certainement en Algérie, eh bien, essayent de nous enfermer les uns et les autres dans des identités recroquevillées, eh bien, de nous tourner ensemble vers l'avenir parce que je crois que nous avons un destin commun.
Merci, monsieur le président du conseil départemental du 93, Stéphane Troussel. Merci infiniment. Et je vous souhaite encore, évidemment, de passer encore quelques heures. Vous rentrez bientôt, me semble-t-il. Et vous allez rencontrer.
Demain.
Eh bien, écoutez, bon courage et plein de bonnes choses. Donc, à Béjaï en ce moment, moi-même. Merci à vous surtout. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis l'Algérie. Au revoir, à très bientôt. On marque la pause, mais je vous attends au 01 53 48 3000. Là, tout de suite, maintenant. La question que je vous pose, effectivement, je vous l'ai dit, la chasse à l'homme à Ivry-Courcouronnes pour retrouver des agresseurs. Cette vidéo qui a eu une vague d'indignation, chers amis. Bon. Vous avez vu que les agressions se multiplient. 01 53 48 3000, je vous attends, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, tout de suite, 18h21 précisément, 0153-48-3000. Je vous attends partout en France, chers amis auditeurs et auditrices. Vous savez, parce que, évidemment, aujourd'hui, on est en train de se poser une question. Est-ce que on a parlé de Rouen? Peut-on, depuis quelques jours, on se dit, peut-on se faire justice soi-même? On a parlé de Nantes, avec ces jeunes qui se sont constitués en milice pour retrouver, évidemment, l'auteur de cette jeune femme. Et puis maintenant, on parle, vous savez quoi, de cette agression filmée dans une laverie en Essonne. Cette indignation, après une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Des images extrêmement violentes où on voit des jeunes s'attaquer, agresser un père, mais surtout une personne, un homme âgé, à Ivry-Courcouronnes. 01 53 48 3000. Donc là, ils ont décidé à Ivry-Courcouronnes, et bien justement de se constituer une chasse à l'homme à Ivry-Courcouronnes pour retrouver les agresseurs. Est-ce que ça aussi, on doit, évidemment, on parle de milices qui se constituent à Nantes, maintenant une chasse à l'homme pour retrouver cet auteur. Dans quelle société vivons-nous? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, chers amis, que on est en train, dans cette société, voilà, d'endosser la police à la place de la police, la justice à la place de la justice. Je vous attends, 01 53 48 3000, chers amis. Alors, il faut qu'on en parle maintenant, tout de suite. Le standard doit exploser dans tous les sens. Je voudrais vous entendre partout en France, venir livrer et discuter, échanger sur ce sujet. Parce que ça nous touche tous. Ça peut arriver à n'importe qui, hein. À vous, à nous, à nos enfants, à vos grands-parents, etc., etc. 01 53 48 3000. Le standard est ouvert. Anthony est là. Il est prêt à dégainer. Fatima de Paris. Bonjour, Fatima. Fatima, bonjour.
Oui. Bonjour. Bonjour, Adil.
Comment ça va, ma chère fidèle auditrice?
Alhamdoulilah, à part ce qui ne va pas.
Oui.
La violence, il n'y a que ceux qui ne vivent pas, c'est-à-dire qui ne côtoient pas les citoyens, qui ne sortent pas, qui ne prennent pas les transports en commun. Je parle des politiques qui minimisent le degré de violence qu'il y a. Moi, je prends beaucoup de transports, je me déplace. Et il y a une violence impossible. Pourquoi?
Parce qu'il y a. Vous le notez, ça? Vous l'avez vu?
Ah, je le note. Moi, il m'est arrivé de descendre d'un RER ou quelque chose parce que je vois qu'il y a un voyou devant moi qui est en train de lorgner mon sac ou quelque chose. Je vous assure que c'est vrai.
Ah ouais?
C'est pas de la rigole. Oui, il m'est arrivé.
Et là, vous prenez la décision de descendre tout de suite.
Je descends et je change de rame ou bien là où il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a que deux ou trois et maintenant les gens, ils sont, on dirait, anesthésiés. Ils n'interviennent pas. Même si vous êtes attaqué.
Non, c'est le monde. Non, vous avez raison. Les gens, ils n'interviennent pas. Vous savez pourquoi?
Non.
J'ai le sentiment que c'est le monde de l'égoïsme qui prime.
Non, ils ont peur.
C'est par peur, je pense. La peur.
C'est par peur, ces voyous, la plupart, se trimballent avec des couteaux, avec ceci. Il n'y a pas de. Ils n'ont plus peur de l'autorité. C'est fini.
Oui.
Et les politiques, ils s'en foutent complètement. Normalement, après toutes ces violences quand même, tous ces meurtres, la petite, la jeune femme là qui vient de d'être tuée, brûlée, Loana. Violée.
Hein, voilà. Justine, il y a Loana et puis Justine aussi. Hein.
Ouais. Voilà, ça personne n'en parle parce qu'elle n'est pas algérienne, elle n'est pas marocaine.
Ouais.
Donc, ça commence à faire beaucoup, moi
ça
je pense.
Ça commence à faire beaucoup en peu de temps.
Voilà.
Ça fait beaucoup, je suis d'accord avec vous. C'est vrai.
Ce que je voudrais pour finir, Adil Oulé, comme on dit en arabe, خلت رجلها ممدود وراحت تعزي في محمود. Alors que ici en France, on est dans la, je sais pas, je veux pas trop dire n'importe quoi. L'un, il est en Algérie, l'autre, il me parle de Chine, et l'autre. Mais régler les problèmes des Français avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est incroyable, ça.
Oui.
C'est pour ça que les gens ne votent plus. 60% de gens n'ont pas voté. 10%, je crois, ne sont même pas inscrits sur les listes électorales.
Vous notez quoi? Vous notez, Fatima, que la société devient de plus en plus violente.
Ah, hein. C'est violent.
Absolument.
C'est violent.
Oui.
Et le problème, Adil, c'est que maintenant, c'est des jeunes filles. Alors, elles sont en bande, prêtes à dégainer. C'est-à-dire, vous levez le regard,
elles vous tapent. Ça, c'est vrai, j'ai vu ça. Non, mais c'est vrai, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, ce que vous me dites, ça. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de filles maintenant qui se comportent comme des mecs, qui viennent et qui vous tapent. C'est vrai. Moi-même, je suis intervenu une fois, figurez-vous, Fatima. J'ai vu une scène, je suis intervenu. Et un groupe de filles qui m'ont dit, mais de quoi tu te mêles? Et elles voulaient me taper carrément, se battre avec moi et tout. Ça m'avait un peu surpris.
Et c'est à moi de baisser les yeux. Bon, moi, je baisse pas les yeux. Mais, par exemple, vous montez dans un métro, vous avez affalé. Moi, la semaine dernière, j'étais dans un bus. Moi, je croyais
Attention, Fatima. Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que on en parle plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est existé comme avant? Ou est-ce que c'est finalement? Ou est-ce que le phénomène a pris de l'ampleur?
Non, Adil. Vous êtes journaliste et il faut sortir pour voir. Un malade, tu peux pas l'ausculter comme ça de loin, derrière ton bureau. Il faut l'ausculter, le toucher. Donc il faut se fréquenter au peuple et se mélanger au peuple pour voir. Il y a une grande violence. Moi, je sais, à une époque, on rentrait à 1h, 2h du matin, on regardait pas de chaque côté s'il y avait pas quelqu'un. Maintenant, vous entendez une feuille tomber, vous sautez au plafond.
C'est vrai.
Non. Il y a une violence multipliée par
cent. C'est vrai, vous avez raison.
Hein.
C'est vrai.
Voilà.
Ben Fatima, merci infiniment.
Merci beaucoup, Adil. Ouais.
Vous savez qu'il y en a beaucoup qu'on. J'ai complètement oublié. Beaucoup d'entre vous ont fait le parallèle entre ce que je faisais à LCI et ici. Je vous remercie infiniment. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Merci, Fatima.
Merci beaucoup, Adil et Olamrak.
À vous aussi, je vous embrasse. Donc, je vous remercie tous parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages dans ce sens. Ils se sont dit, est-ce que c'est... Oui, c'est la même chose. Ils se sont posé la question, est-ce que c'est le même? Oui, c'est moi, je vous rassure. C'est moi. C'est pas... Certains se sont posé la question. Écoutez, merci. En tout cas, ça m'a touché et c'est des beaux messages que j'avais reçus et franchement, c'est très touchant. Laïla de Saint-Étienne. Bonjour, Laïla de Saint-Étienne. Laïla, bonjour. Laïla. Bonjour, Laïla.
Vous m'entendez? Bonjour.
Oui, je vous entends très bien. Bienvenue, ma chère Laïla.
Oui, du coup, moi, je voulais juste rebondir sur le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, est-ce qu'on a le droit de se venger, enfin, de faire justice soi-même, c'est ça?
Il y a ça, et puis il y a cette violence. Est-ce que notre société est en train de devenir de plus en plus violente? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Quand vous voyez Nantes en peu de temps, la jeune femme, et puis les milices qui se constituent, ensuite, on a affaire, vous savez, à Rouen, où le père de famille décide de se faire justice soi-même. Maintenant, on a à Évry-Courcouronnes, vous savez quoi, un groupe de jeunes qui vient, qui agresse dans une laverie un homme âgé, qui s'en prennent lui, on ne connaît pas les circonstances, mais toujours est-il à Évry-Courcouronnes, une chasse à l'homme à Évry-Courcouronnes pour retrouver les auteurs, les agresseurs après cette vidéo très violente, je vous le dis, très violente cette vidéo. Il faut vraiment, donc une vague d'indignation a été provoquée sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, à la fois deux questions, cette justice évidemment qui devient de plus en plus violente, est-ce que vous la constatez, comme dit Fatima, et puis de l'autre, vous avez aussi des milices qui se constituent, chasse à l'homme, se faire justice soi-même. Où vivons-nous, j'ai envie de vous dire. Laïla, je vous écoute.
Eh ben moi, je vais me faire l'avocate du diable, dans le sens où je vais prendre la partie des gens, effectivement, qui ont tendance à s'emporter, à faire justice eux-mêmes. C'est pas dire que je suis d'accord, je vais me faire justement l'avocate du diable. Donc voilà ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on manque de repères. On en a marre, on n'est pas écoutés. En plus de ça, on nous présente que du bling-bling à la télévision. J'ai l'impression aujourd'hui, pour s'en sortir, où il faut être effectivement un Mbappé avec le talent de Mbappé. Non, il faut être Mbappé avec le talent de Messi et le fils... Non, franchement, j'ai l'impression que pour y arriver, ou bien t'es footballeur et t'y arrives, c'est tant pis de tomber pour toi, ou bien on peut pas y arriver. Moi, je suis propriétaire de plusieurs appartements, mais l'État me taxe à 50%. Derrière, j'ai un crédit que je dois payer pour ces appartements-là.
Ouais, je comprends. Vous êtes en train de me dire, Laïla, qu'il y a un divorce entre les politiques, un divorce entre la police, un divorce entre la justice. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ce que je comprends entre les lignes, moi.
Je suis en train de dire que les gens, on n'a pas d'espoir. Les jeunes n'ont plus d'espoir. Les gens, je veux dire, moi, à mon âge, j'ai 40 ans, j'ai des appartements, j'y arrive pas. Je suis débitrice au jour d'aujourd'hui. Ma mère, elle me demande de lui payer son billet d'avion.
Avec tout ce que vous venez de nous décrire, vous êtes en train de me dire, vous y arrivez pas?
Ah oui, je vous jure, et pourtant je suis.
Alors qu'est-ce que ça va être celui justement qui vient avec le SMIC? Qu'est-ce qu'il doit dire
qu'est-ce
alors lui?
Ça va être les gens qui vont avec le SMIC. J'essaie de donner un maximum de chance à mes enfants. Je les inscris dans des activités extrascolaires pour justement éviter que demain ils se retrouvent à vendre du shit XYZ. Ma mère me demande un billet d'avion pour aller au Bled, je ne peux pas lui offrir, j'ai honte, je ne peux pas, elle ne comprend pas.
Non, c'est vrai ce que vous dites là, Leïla, c'est terrible.
Et que je paye un crédit. Non, mais laissez-moi continuer d'être l'avocat du diable.
Oui, allez-y, c'est le lieu, allez-y. Et je voudrais entendre les autres auditeurs au 01 53 48 3000 également. Partout en France,
Leïla. Au niveau de l'éducation, on a un problème. J'ai l'impression que si t'es le fils d'un tel ou d'un tel qui arrive parce que t'as les parents derrière toi, si t'as pas la chance d'être bien suivi scolairement, tu n'y arrives pas parce que c'est de plus en plus un véritable creuset qui se fait entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. En plus de ça, je vais vous expliquer quelque chose. À la télévision, on n'a pas de modèle. Moi, personnellement, je me sens pas représentée dans la télévision, ni au niveau des acteurs, ni au niveau des mannequins, ni au niveau des gens politiques. Honnêtement, les gens manquent d'espoir. Donc, ils se disent, voilà, au niveau de la justice, le papa qui a frappé le gamin...
Là où je suis d'accord avec vous, c'est vrai, il y a évidemment un marqueur de modèle ou un marqueur d'espoir qui, effectivement, qui n'est pas assez reflété. Je vous l'accorde. Ça s'entend.
On est reflété dans le foot. On est reflété que dans le foot.
Oui.
Ouais, je suis un bon nono. On n'est pas que des talents de foot. Malheureusement, j'aurais aimé, mais c'est pas le cas. Moi, je vois même les parents aujourd'hui au niveau du foot quand on accompagne samedi ou dimanche nos enfants qui font du foot. Les parents stressent leurs enfants pour qu'ils aient du talent, stressent leurs enfants pour que ce soit des Mbappé numéro 2. Les parents sont
Sauf que là, c'est pas possible.
Je veux dire, il y a un véritable manque de repères. On manque de repères.
Ouais, c'est vrai,
personnellement, j'ai envie de m'en sortir à la sueur de mon front. J'arrive pas au niveau de la justice. Le père, il se fait justice lui-même. Pourquoi? Parce que la justice en France, il faut des 5 ans pour qu'on ait justice. C'est hyper long. C'est hyper frustrant.
Je vous sens en colère, ma chère Leïla.
Non. Moi, en fait, avant d'être prof, j'ai voulu être avocate. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. C'est-à-dire que je me suis fait l'avocate du diable. Donc, j'ai endossé un rôle pour faire réagir les gens. Je veux qu'on échange.
Oui, vous avez raison.
Mais c'est vrai qu'il y a de la colère aussi. Il y a de la non-compréhension. Il y a beaucoup de choses aussi.
Eh bien, 01 53 48 3000. J'attends celles et ceux qui veulent justement se confronter leur point de vue justement à Leïla de Saint-Etienne. 01 53 48 Allez. 3000. Elle vous attend, Leïla, effectivement. À très bientôt, ma chère Leïla. Leïla, évidemment, son témoignage est terrible. Quand on voit effectivement que tout va bien pour elle et qu'elle se dit les fins de mois sont difficiles, tout est compliqué, tout est difficile. Terrible quand même. Hein. Bon, 01 53 48 3000. Non, mais Amine, c'est une réalité. C'est vrai, c'est une réalité, c'est une réalité. C'est une réalité que vivent beaucoup de gens. C'est pas probablement, je vois, il m'arrive d'ici et là, mais bon. Le problème, c'est que je me pose la question, celui qui vit avec le SMIC, comment il fait? Comment il fait pour s'en sortir, au fait? Il survit. Donc il est obligé de travailler en plus le week-end pour aller, évidemment, il faut un complément de salaire aujourd'hui. Complément de salaire sur... pour accompagner les enfants, comme l'expliquait si bien Leïla, pour fournir la scolarité, pour les divertir dans des associations, pour leur permettre de faire des clubs de foot, etc., etc. Je voudrais vous entendre 01 53 48 3000. C'est votre espace, les informés sur BFM, vous le savez vous-même. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous appeler, comme chaque soir, et je vous en remercie infiniment. C'est comme ça que ça se passe. C'est les informés, c'est votre émission, c'est votre espace. Allez, quel est le prochain auditeur, justement? Il nous appelle d'où? Parce que vous êtes très, très nombreux, justement. Et comme vous êtes nombreux, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est d'aller à l'essentiel. Précis, concis. Voilà. Inscrivez ça dans votre esprit. Allez à l'essentiel. Camélia de Toulouse. On va essayer de faire le tour de France. Bonjour, Camélia. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Camélia?
Je suis chasseuse de tête professionnelle, chargée de recrutement, du coup.
Bienvenue, je vous souhaite évidemment la bienvenue sur notre antenne dans Les Informés sur BFM. Dites-moi, vous avez écouté Leïla, son coup de gueule, son coup de colère. Qu'est-ce que vous dites et comment vous réagissez? Et puis, qu'est-ce que vous nous racontez, vous aussi? Est-ce que notre société est en train de devenir de plus en plus violente?
Alors, moi, je vais donner un avis qui est différent de celui de Leïla. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec elle ou que je suis d'accord avec elle. Je vais juste donner mon opinion. Je pense rejoindra pas mal d'avis qui ont été donnés précédemment. Je pense qu'aujourd'hui le réel problème n'est pas le comportement entre guillemets de la violence dans les transports ou dans la vie citoyenne ou encore la pression que les parents mettent sur le sport et le résultat. Je pense que le problème même pour moi, il vient de l'éducation.
Oui.
L'éducation nationale, elle n'a pas été réformée depuis Napoléon Ier. Aujourd'hui, moi, je suis chargée de recrutement professionnel. Je travaille en cabinet. Mmh. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas les possibilités d'emploi, qui, lorsqu'ils étaient à l'école, ne connaissaient pas aussi les possibilités de métier, se sont mal fait orienter parce qu'ils étaient orientés par des personnes qui ne connaissaient pas le marché de l'emploi.
Oui. Oui.
Donc, conseillère d'orientation qui ne connaît pas les marchés de l'emploi et qui vous dit...
Ouais, c'est vrai que ça, c'est terrible.
Ça n'a pas de valeur. Donc, on a des conseillères d'orientation qui ont dénigré les métiers professionnels comme les chaudronniers, comme les architectes, d'ailleurs, ou comme, par exemple, les personnes qui étaient de support informatique, parce qu'à l'époque, c'était la croissance, justement, de l'IT, et c'était pas un métier qui était énormément mis en valeur. Donc on a orienté les gens par pas par choix ou volonté d'avenir, mais parce qu'il fallait les mettre à des endroits. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'il ne fallait pas envoyer les personnes en bac pro, il fallait qu'ils aillent en général. Ils ont ensuite eu des échecs scolaires parce que ça correspondait pas à ce qu'ils recherchaient. Et maintenant, on a une tendance qui s'inverse au niveau de l'offre et de la demande. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, un premier confirmé, payer 16 euros de l'heure.
Effectivement, Camélia, ouais. Bon, vous avez observé qu'effectivement, il y a un changement, hein. J'ai remarqué.
Totalement.
Bon, mais merci Camilla d'être intervenue de Toulouse. Restez fidèles aux informés.
Ça marche. Bon courage, au revoir.
Merci, à très bientôt. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve avec Wafa qui nous appelle du 78. Wafa et Zouir de Montpellier, le Rachid du 91, 01 53 48 3000. À tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h42, avant de retrouver le face-à-face, nos débatteurs, influenceurs, ils sont en train de bouillonner. Vous les verrez sur le plateau, ils sont en train de là, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de s'emparer du micro. 01-53-48-3000, je vais écouter Wafa. Bonsoir à Wafa. Wafa, bonsoir.
Oui,
bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis chef de projet.
Bienvenue, vous nous appelez de quelle ville? Du 78, parce que le 78, c'est un vaste, c'est grand département. Hein.
Oui, c'est du PEC, je ne sais pas si c'est pas très connu, le PEC à côté de Saint-Germain-en-Laye.
Si on connaît le PEC, vous rigolez ou quoi? C'est pas un village encore, le PEC, c'est une grande ville.
Voilà.
On vous écoute, ma chère Wafa.
Alors moi, je n'ai pas suivi l'émission dès le début, malheureusement, j'ai commencé à partir du témoignage de la dame,
oui,
qui m'a beaucoup touchée.
Laïla.
Laïla, voilà.
De Saint-Étienne.
Nous, de Paris, pareil, donc de la région parisienne, je trouve qu'on est très mal représenté quand on fait partie de la classe moyenne. Mmh. Et qu'on, tout le monde pense que ça va pour nous, que ça marche très bien, et que malheureusement, avec tout ce qui se passe, on se sent vraiment mal représenté. On a des fins de mois durs comme tout le monde. Mmh. Bien sûr, il n'y a pas d'aide, tout ça, parce qu'on dépasse largement le plafond, mais ça devient de plus en plus dur pour ces gens-là aussi. Mmh. Entre les activités des enfants, le train de vie, enfin, je veux pas dire qu'on vit, c'est une vie normale comme tout le monde, mais quand elle a dit que sa maman, elle lui demande un billet d'avion au Maroc et qu'elle peut pas le prendre, alors que pour tout le monde, ça doit faire bizarre qu'elle travaille très bien, qu'elle gagne très bien sa vie, mais qu'elle peut pas. Mmh. Et voilà, malheureusement, on arrive à là. Mmh.
Ça vous arrive, vous aussi, évidemment, de pas partir en vacances parce que c'est très compliqué?
Oui. Cette année, justement. On commence à faire des choix.
Vous êtes sacrifié, vous n'êtes pas parti.
On est parti, mais pas comme avant.
Pas comme avant.
On n'est pas resté, au lieu de rester un mois, on est resté 2 semaines, par exemple.
Un mois où ça?
Au Maroc.
Et vous êtes resté 2 semaines?
On est resté que 2 semaines cette année.
Bon, vous en avez profité quand même un peu.
Oui, heureusement. Oui.
Donc vous partagez la vie de Laïla, c'est compliqué, de plus en plus.
C'est très compliqué, c'est surtout quand... Alors on parle souvent des gens qui touchent le SMIC aussi, hein, c'est très dur pour eux. Surtout des gens qui ne travaillent pas, c'est très dur pour eux aussi. Mais on parle au moins d'eux, on sait que... Mais nous, on a l'impression qu'on est mal représentés.
Merci Wafa d'être intervenu.
Merci à toi.
Et restez fidèles.
Oui.
Aux informés. Merci. Allez, je vais parcourir encore le 95, Montigny-les-Cormeilles. Samy, bonjour mon cher Samy.
Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Très bien, Samy, tout va bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Samy?
Je suis banquier.
Banquier, ah, la finance. On a besoin de la finance. Il paraît que ça va mal, hein?
Ça va très mal. Ouais. Ça va très mal.
Bon, parlons du sujet qui nous concerne ce soir, Samy.
Donc moi, comme la personne juste avant là qui a pris, j'ai pris le, je sors du boulot justement et j'ai pris
la discussion,
en cours,
l'échange, ouais.
Et je suis tombé sur la dame qui se plaignait de pas être trop représentée.
Ouais.
Et bah, en fait, moi, je suis un peu à l'encontre de tout ça. Je suis à contre-courant un peu de tout ça. Et
allez-y.
Et j'en ai marre que tout le monde mette un peu la poussière sous le tapis, se plaigne, on n'est pas représenté.
En gros, la victimisation, dites-le.
Voilà, moi, la victimisation, je commence à en avoir marre, en fait. Ouais. On n'est pas représenté. Et chercher un peu des excuses sur notre mal-être, entre guillemets, ou le fait qu'on ne réussisse pas, mettre la faute sur les autres, moi, ça me saoule. Moi, j'ai 42 ans, je suis né en France, de parents algériens qui sont arrivés en France. J'ai grandi dans une cité. On était encore moins représentés à l'époque, et je m'en suis sorti, quoi. Faut arrêter de chercher des excuses, des coupables, etc. Faut se prendre en main et arrêter de se plaindre. Je veux dire, en quoi le fait qu'il n'y ait pas des personnes à la télé qui nous représentent, ou qu'on soit représenté que par le foot, est-ce que en quoi ça va nous empêcher d'évoluer ou d'avancer dans la vie? Quel est le lien, en fait, de cause à effet entre les deux?
Vous allez susciter beaucoup de réactions, vous, je le sens.
C'est vrai. Qu'on m'explique en quoi le fait qu'il n'y ait pas de Mohamed ou Mamadou à la télé plus que ça, ouais, ça fait qu'on réussisse pas. Quel est le lien?
Oui.
Quel est le lien? Je suis désolé. C'est un problème de peut-être d'éducation des parents. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de lien.
Il faut des marqueurs, hein. Vous le savez ça. Ce qu'on appelle ces fameux marqueurs, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Moi, j'appelle ça l'effet miroir. Ça veut dire que je vois quelqu'un qui me ressemble et évidemment, ça suscite de l'espoir et de l'envie et des rêves. C'est important, hein. On vit dans une société, le monde, c'est universel. C'est-à-dire que l'effet miroir doit exister. Vous êtes banquier, vous avez réussi, un gamin qui vous voit, vous intervenez dans un collège... Samy a réussi, il est banquier, donc c'est possible pour moi, ça s'appelle l'effet
miroir. D'accord, mais moi je ne vais pas passer à la télé, il n'y a pas de banquier à la télé.
Ouais, mais peut-être que certains ont envie de passer à la télé. Voilà, susciter des vocations, tout simplement.
Parce qu'à la télé, qu'est-ce qu'ils nous montrent à la télé? On a les journalistes, et on a les sportifs, et on a les animateurs télé.
Oui, mais peut-être que ça suscite des envies. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, ça suscite des envies. Je vous promets.
Moi,
ça
ce qui suscite des envies, c'est quand je vais aller.
Ça suscite des envies. Et puis la télé, attention, il ne faut pas l'oublier. La télévision, les médias ont un rôle à jouer, un rôle dans notre société. D'accord? C'est l'image, c'est la vitrine, c'est la représentativité nationale. C'est aussi ça, la télévision. C'est aussi ça. C'est aussi ça, les médias.
Et mon discours n'est pas du tout d'être favorable envers les médias. Je connais les défauts des médias actuels et surtout de nos médias à nous en France. C'est catastrophique, on est tout à fait d'accord. Moi, c'était juste un discours pour dire. Arrêtons de chercher des excuses.
Bon, écoutez, je sens que ça va susciter évidemment des réactions, et tant mieux, c'est le but, c'est l'objet. Merci Samy, bon courage à vous.
Merci.
Et bonne soirée.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Tiens, je vais accueillir Fatima de Saint-Étienne. Retour à Saint-Étienne. Fatima, bonsoir ma chère Fatima.
Bonsoir à vous. Alors
qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Fatima?
Alors moi, je fais beaucoup de choses. Je suis je travaille dans la téléprospection, donc je fais tout ce qui touche les TPE. Oui. Et j'ai une association, justement. Bon. Donc c'est sur l'association qui fait que je peux dire pas mal de choses par rapport à tout ce que j'ai entendu.
Allez-y, je vous écoute, ma chère Fatima.
Samy, je lui dis bravo. Ouais. J'ai adoré ce qu'il a dit, je vous le dis. J'ai adoré ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que c'est vrai, comme vous dites, vous, effectivement, il y a l'effet miroir. Mais on peut pas tous être à la télé. Il faut des médecins, il faut de tout dans la vie. Donc, pour moi, c'est une question d'éducation et chacun doit mettre sa petite graine.
Ouais.
Moi, j'ai des jeunes que je m'occupe de quartier. Là, on a fait sur...
Mais on doit avoir des modèles. La société, elle est importante. On doit avoir des modèles.
Et oui, on doit avoir des modèles, ça c'est sûr. Mais
s'il
les
y a
modèles,
pas de
modèles, on peut avoir des on a des modèles. Nos modèles, ça doit être nos parents normalement.
Oui, mais tout le monde. Chacun va se retrouver dans des modèles. L'autre va se retrouver dans l'humour, le foot, les médias, le journaliste, docteur, médecin, avocat, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais moi, aujourd'hui, moi je travaille beaucoup sur justement la reconnaissance et le savoir. Comment dire? On apprend avec les jeunes sur comment pouvoir s'intégrer dans la société.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les emmène dans des endroits où on sait que ça va évoluer dans leur esprit. Mmh. Par exemple, l'Assemblée nationale, le Sénat. Mmh. On a fait ça avec les jeunes. On les emmène à faire des débats avec plusieurs politicards, donc dans plusieurs endroits. Là, je les emmène en Algérie. Il y a un départ qui se fait en Algérie pour qu'ils puissent connaître un petit peu de leur, là où, d'où ils viennent, leurs parents surtout d'où ils viennent. Donc connaître un petit peu l'environnement, de, parce que c'est important de connaître d'où on est. Donc c'est tout ce côté-là et chacun doit aider son prochain par rapport à tout ça. Parce que si on commence à regarder à droite, à gauche, l'autre et l'autre, on s'en sortira pas. On peut pas poser à chaque fois dire oui c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. À cette allure, on va jamais s'en sortir. Ouais.
Bon.
Les jeunes, ils ont besoin de nous.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Fatima. Merci d'être intervenue, Fatima. Je fais vite parce qu'on est très en retard. Merci à vous.
Je vous en prie. C'est nous qui vous remercions.
Il y en a. Bah, écoutez, vous savez, on est ensemble. Hein. Je vous le dis en permanence. On ne lâche rien. Vous savez, c'est le fameux dicton. Hein. On ne lâche rien.
Merci à vous et bravo pour l'émission.
Merci beaucoup, ça fait plaisir, évidemment, bravo. Et on continuera toujours. J'ai un élu qui, depuis tout à l'heure, il est chaud bouillant, il me dit, donne-moi la parole, je veux réagir, je veux répondre, moi. Il y a Rachid, il y a le banquier, tout le monde là. Qu'est-ce qu'il y a, Minsa, là, l'élu de la Courneuve, bonjour.
Bonjour, Adil Farkan. Non, tout va bien.
Répondez aux auditeurs, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Ce que je voulais, tout simplement, la télé, d'abord, c'est pas que des journalistes et des sportifs et des animateurs télé.
C'est aussi des
les écrans, de manière générale, c'est aussi des comédiens, des humoristes, tout un tas de métiers du spectacle. Et force est de constater que lorsqu'on veut se projeter sur un avenir, par exemple, dans la médecine, pour devenir médecin, pour reprendre les propos qui ont été tenus à l'instant, c'est qu'il faudrait avoir, par exemple, dans une série télévisée, un médecin issu de la diversité. Par
Et
exemple,
ça compte.
Là, c'est la représentation qui va notamment inciter à aller vers ces métiers-là.
C'est ce que j'appelle l'effet miroir, moi.
Exactement. Donc, évidemment, quand à la télé, de manière générale, sur les écrans, les personnes issues de la diversité ne sont engagées que sur des rôles bien précis, et bien dans la société, on retrouve cet effet miroir.
Absolument. Non, mais c'est très,
donc,
très
la représentation,
important.
C'est extrêmement
important. Elle est très, très, très... Vous voyez, je vais vous raconter juste une anecdote. Ça m'a fait plaisir. J'ai un père de famille qui m'a écrit il y a 15 jours environ, parce qu'ils ont vu avec son fils sur LCI, justement, parce que j'interviens le dimanche, et le petit gamin... Ça a suscité de l'espoir chez lui. Le père de famille m'a écrit, justement, en me disant merci, grâce à vous, mon enfant, ça lui a permis d'avoir une vocation de journaliste. Ben, rien que ça, moi, ça m'a fait plaisir.
Et on l'a vu, notamment avec.
Rien que ça, ça m'a fait plaisir. Vous voyez, vous rendez compte, les amis auditeurs.
Bien sûr. Combien de
donc ça joue, ça compte.
Combien d'élèves journalistes issus de la diversité ont été motivés par des personnalités comme Harry Roselma, comme Rachid Arab, etc., etc. Ouais. C'est évident.
C'est évident. Et donc il a raison, Amine, ça. C'est vrai,
et oui, mais il n'y a
vrai,
pas que les métiers de la télé, évidemment.
Mais il n'y a pas, mais évidemment. Sauf que je disais tout à l'heure, les médias, c'est la représentation et la représentativité.
C'est la
nationale,
vitrine de notre société.
Et c'est aussi des invités qui sont sur le plateau, un avocat, un médecin, qui viennent, voilà, qui sont issus de l'immigration. Et grâce à eux aussi, eh bien, on véhicule ce que j'appelle, moi, l'effet miroir. Allez, 18h53. On marque une courte pause et on démarre les débats avec justement ce qui a retenu notre attention. A tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h55, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir. Je m'en excuse d'entrée. Il faut s'excuser auprès de Hitler parce que là, il faut qu'on démarre avec nos débatteurs. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Amine Sa, l'élu de la Courneuve. Bonjour Amine Sa.
Bonjour Adil Farkan.
Ibouba, le retour, journaliste, Ibouba. Mais tirez le micro vers vous, Ibouba, vous êtes journaliste là.
Oui.
L'élégance dans toute sa splendeur, elle est vieille.
Mais l'élégance, en fait, ça
s'appelle. Ah là 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 là. Là
quand
là
on
là
est avec Adil Farkan, c'est vrai qu'on peut l'emprunter.
Bien dans le micro, bien dans le micro, s'il vous plaît.
Quand on est avec Adil Farkan, c'est clair qu'on peut l'emprunter. Donc,
ah là
on
là
le prend
là
de
là. Ah là 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 là.
Quand on est avec Amine aussi, donc c'est quand même, vous voyez bien ma gauche.
C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur.
Amine, en ce moment, j'ai vu. Non mais en ce moment, il est très présent sur TikTok. Si vous arrivez là. Le mec, il se lâche, ça y est, tu vois, il a envie de parler à une population. Je vous jure, il prépare une élection, c'est pas possible.
Il n'est pas élu pour rien.
Ouais, j'ai vu. Voilà. Il est au taquet sur TikTok. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Yamine?
J'ai découvert ce réseau social qui est très intéressant. Et donc, je fais comme tout le monde. Hein. J'en use. Parfois, j'en abuse aussi.
J'étais avec. Vous savez comment j'ai vu ça? J'étais en terrasse. J'ai un copain à moi, il me dit. J'ai un copain à moi qui me dit. Mais c'est pas un débatteur chez toi, lui? Et il me montre, je dis, mais c'est Amine ça, qu'est-ce qu'il fait sur TikTok? Vous avez raison. Il y en a un autre aussi qui est sur TikTok. Et lui, il cartonne sur TikTok. Lui, c'est un TikToker.
C'est très instantané.
Mais lui, il est très, très vu sur TikTok.
Et moi, j'ai eu du mal à m'y mettre. Parce que pour moi, c'est un truc pour les gamins.
Pour ceux que ça intéresse.
Oui, c'est ça. Jimmy Dalidou, représentant syndical CGT, mais également auteur. Messieurs, tout de suite, allez, on va faire. Il faut qu'on avance parce que là, je me suis mis très en retard. Le Macron, hier, vous savez, c'était la seconde séquence de l'interview sur France 2. Un moment, évidemment, qui a été extrêmement commenté par les différents acteurs politiques, mais aussi par vous-même. Alors, nous allons parler d'Emmanuel Macron, qui charge la NUPES. Hein, il était en colère hier. Une colère, moi, qui me semble plutôt sincère. Il s'adresse à la NUPES, mais il s'adresse, vous savez quoi ? Main dans la main, la NUPES, le Rassemblement National, pour justement déstabiliser. Il appelle ça le désordre. Écoutez l'extrait.
Ils lui ont demandé de déposer une motion de censure qui, à dessein, a été changée par cette coalition baroque de la NUPES.
Qu'est-ce qui vous met en colère ?
Mais ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi ? Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'il y a le désarroi de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français. J'ai vu en même temps, ces derniers jours, au Parlement, qu'il y a des députés d'un groupe justement intermédiaire du centre, m'appelle Lyotte, qu'il y a les parlementaires du groupe Les Républicains qui n'ont pas voté cette motion de censure. Ils ont donc envoyé un message clair.
Justement, c'était sur France 2 hier, donc la grande interview, l'événement. Amine Sarr.
C'est juste du spectacle. Il a fait fi d'être en colère. La réalité, c'est, on la connaît. D'abord, il dit, il a repris quand même.
Il m'avait l'air sincère.
Non, et je vais mais vous dire pourquoi. D'abord, parce que je suis juste outré par la manière dont il a amené les choses. Pourquoi je dis que c'est du cinéma? D'abord, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'a été avéré ni établi sur le fait qu'il y aurait eu une entente entre le groupe de la NUPES et le Rassemblement National. Rien. Le texte n'a pas changé. Il y a eu des discussions entre les présidents des différents groupes qui composent la NUPES, mais il n'y a pas eu de connivence avant le dépôt de la motion de censure. Ça, c'est la première chose. Donc, le fait qu'ils le reprennent, alors qu'il est quand même le chef de l'État, c'est un véritable problème. Ouais. Ensuite, la deuxième chose. Alors, ils font tous fi d'être outrés que le Rassemblement National vote la motion de censure déposée par la NUPES, sauf que lorsqu'il a fallu voter il y a quelques semaines encore l'élection de vice-président de l'Assemblée nationale, le groupe de La République En Marche et celui du Rassemblement National votaient main dans la main. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'il a fallu voter contre le SMIC à 1 500 €, le Rassemblement National et En Marche ont voté ensemble. À ce moment-là, visiblement, ça ne posait de problème à personne. Aujourd'hui, parce que le Rassemblement National fait le choix de voter cette motion de censure. Alors, pour des questions...
Est-ce qu'on peut considérer que c'est main dans la main ? Main dans la main avec le RN ?
Non, pas du tout. Par ailleurs, la NUPES n'a pas voté la motion de censure déposée par le Rassemblement National. Ça, il faut quand même le souligner. Mmh. Mais qu'il y ait de la stratégie du côté du Rassemblement National, c'est une chose. Je ne crois pas qu'ils le font par volonté, comment dire, de ils savaient par ailleurs qu'ils ne parviendraient pas à renverser le gouvernement. Parce que il savait que l'objectif, c'était de piéger les Républicains et de montrer qu'ils sont de connivence avec La République En Marche. Et ça s'est vérifié au final.
Ibouba.
La grande question que je me pose aujourd'hui, elle est où la démocratie ? Ouais. En fait, c'est juste cela. Le fond du problème, il faut être fair play. Je crois que le président de la République doit avoir cette attitude-là, parce qu'aujourd'hui, donc, il représente tous ses partis aujourd'hui. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il y ait donc ipso facto effectivement donc ces genres de calculs qui se trouvent à l'Assemblée nationale, parce que justement, si ce n'est que son parti, il représente quoi ? C'est la grande question qu'il faut se poser. Si maintenant aujourd'hui donc les gens ils trouvent à leur vision spontanée qu'il faut se mettre ensemble pour une motion de censure, mais bien sûr qu'il faut le faire.
Sauf que là il dit. Comme par hasard, le Rassemblement National, la NUPES, main dans la main, ils ont décidé de, évidemment, ils parlent même de désordre. Hein.
Mais c'est pas un désordre, mais c'est parce que c'est un droit et un devoir. Ils ont trouvé que c'est rationnel. Ils le font. Et maintenant, il faut l'accepter. C'est juste ça, le fond du problème. Aujourd'hui, je crois que ce qui intéresse la population, est-ce que les gens, ils ont, la question que je me pose, est-ce que les Français, ils ont la même lecture que ce président de la République aujourd'hui? Je crois que c'est ça. Les gens, ils ont une page de vie quasiment dénaturée. Ils sont frappés par la mélancolie, la détresse, la faim. Les gens, ils en peuvent plus.
Et vous surtout quand, quand on parle d'inflation, effectivement, les prix flambent de partout.
Hein, qui est là. On nous parle de la guerre de l'Ukraine. Les gens, ils se posent la question à savoir, mais qu'est-ce qu'on a à voir dans tout cela? Oui, c'est vrai, parce que justement, on est européen, d'accord? Je suis entièrement d'accord. Il faut soutenir, parce que, voilà, on peut soutenir à certaines limites. Mais aujourd'hui, si vous voulez soutenir jusqu'à ce que vous voyez, vous savez, une fois, j'ai essayé, excusez-moi, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir là-dessus. J'ai écouté aussi un élu qui était en train de parler, effectivement, c'est pas un beau discours à entendre, mais en quelque sorte, c'est une sorte de réalité. Mais qu'est-ce que la France a gagné dans cette histoire-là de la guerre en Ukraine? Aujourd'hui, on a beaucoup de... La population, elle n'en peut plus, et elle vit le désarroi total. Et c'est dû à quoi? C'est dû à cette guerre-là. Après, Covid, c'est la guerre. Mais... on sait aussi la situation donc de cette guerre-là, qui ce qui les envomunit et ce qui les dessous de table donc de cette guerre-là, les États-Unis. Est-ce que aujourd'hui les États-Unis, ce qu'ils ont fait en Irak, est-ce que c'est pas ce qui se produit autrement ou d'une autre façon sur ce plateau, sur ce terrain de l'Ukraine? C'est une question qui est très très importante. Absolument. Et qu'il faut se poser. C'est très 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 important.
Restons,
cette question-là.
Alors effectivement. Vous avez abordé plusieurs sujets, mais j'ai compris évidemment la ligne. Hein. Jimmy Dalidou, Macron, la NUPES, la colère et la gauche qui dénonce l'insulte.
Deux choses, dans le fond et dans la forme.
Et l'accuse de banaliser Le Pen.
Mais écoutez, dans le fond et dans la forme. Dans le fond, en fait, il y a une chose qu'il faudrait clarifier tout de même. C'est que les amendements et les alliances politiques ont toujours existé. Et que ce soit au niveau parlementaire ou ce soit au niveau extra-parlementaire. J'étais moi-même dirigeant de mon organisation politique et les alliances politiques, elles ont toujours existé. Les amendements, quand on amende quelque chose pour nos auditeurs, quand on amende un texte politique, quelle que soit la formation politique, quelle que soit même une formation syndicale en fait, quand vous présentez un texte au vote de vos militants, etc., il est amendé. Ça fait partie des rouages de fonctionnement d'une formation politique ou syndicale, quelle que soit la formation. Et ça, même à l'extérieur, même au niveau extra-parlementaire, à tous les niveaux, ça a toujours existé. Donc, qu'il le veuille ou non, les amendements et les annonces politiques font partie des rouages de fonctionnement normaux. C'est comme ça, qu'il le veuille ou non. Oui, ça, c'est dans la forme. Ensuite, ça, c'était pour le fond, pardon. Dans la forme, moi, ça me pose un véritable problème qui s'énerve de cette manière-là. Parce qu'en fait, si vous analysez bien son comportement, quelque part, il vous dit quoi? Il vous dit que des amendements. Et des alliances politiques posera un problème constitutionnel presque, alors que lui, quand il menace d'une dissolution, quand il menace, lui, il s'appuie sur la Constitution. Alors quand ça l'arrange, c'est constitutionnel, mais ça, quand ça l'arrange plus, c'est plus constitutionnel. Et je finirai par un truc dans la forme.
Oui.
Vous avez bien vu que votre président de la République s'énerve, et ça démontre bien qu'il est un enfant gâté formé par Rothschild et qui supporte pas qu'on lui désobéisse. Ça, c'est un véritable problème. On n'est pas dans la banque Rothschild où on impose des directives et on pète un câble parce que l'opposition qu'on a devant soi n'est pas d'accord. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si moi, vous connaissez mon avis, je pense pas que soit qu'on ait atteint une démocratie. Pour moi, la notion de démocratie, elle est utopiste. C'est une troisième voie qu'on voudrait atteindre, mais qui est difficilement impossible d'accès.
On va continuer d'en parler. Justement.
En fait, C'est un homme autoritaire qui doit imposer
ses directives.
Je voulais ajouter juste une petite chose pour étayer mon propos. En 2016, je crois, sous la présidence Hollande, Emmanuel Macron à cette époque-là est ministre de l'économie. Et vous savez ce qui s'est passé? Le groupe Les Républicains, beaucoup plus important à l'Assemblée à ce moment-là, dépose une motion de censure contre un projet de loi. Vous savez qui le vote? Certains membres de l'actuel gouvernement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Monsieur Rister. Et vous savez avec le soutien de qui? De Marion Maréchal Le Pen à l'époque, député, Gilbert Collard et Monsieur Dupont-Aignan. Donc, de grâce, pas de leçons aux autres. La réalité, c'est que quand le Rassemblement National vote une motion pour soutenir les Républicains, ça pose pas de problème. Quand il vote une motion déposée par la NUPES, ça pose un problème. Il faut à un moment donné être un peu plus sérieux.
Parlons justement, vous savez quoi, on va essayer de passer en revue ce qui a retenu notre attention, hein, effectivement, la hausse des prix de l'énergie, du carburant. Dès le mois de novembre, justement, on aura 30 centimes, puis ensuite 10 centimes. Les salaires, les réformes des retraites, l'Assemblée nationale. Bref, tout est des sujets, transition écologique, les difficultés du secteur de la santé, des mesures aussi, des annonces ont été faites. Et le sujet sur l'immigration et l'insécurité. Alors, que peut-on, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les différentes, évidemment, déclarations concernant Emmanuel Macron? Tiens, Amine Sarr.
La mesure que j'ai trouvée plutôt intelligente, c'était celle de dire maintenant les professionnels de santé, les médecins en particulier, à la retraite, pourront reprendre du service ou poursuivre le service même une fois la retraite acquise, sans pour autant être taxés ou bien étant obligés de payer des cotisations. Et donc la possibilité d'avoir des médecins qui puissent rester plus longtemps sur le marché du travail, si je peux dire ça comme ça, avec la possibilité de cumuler leurs revenus avec leur retraite acquise, je trouvais que c'était plutôt judicieux. Mais ça représente rien en termes de dépenses publiques. Donc c'était une mesure de bon sens. Il a su la prendre. Il faut le saluer.
Sur l'immigration, la nouvelle loi justement annoncée début 2023 au Parlement pour réformer en profondeur nos règles.
Là, évidemment, il a besoin surtout d'une majorité. Il sait que sur un texte comme celui-là, il peut aller chercher un certain nombre de députés, les Républicains ou du Rassemblement National. Ça lui évitera d'imposer un nouveau 49-3, sachant que là, on va avoir affaire à une série de 49-3, puisque les textes budgétaires vont faire la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il va falloir à chaque fois brandir le 49-3. Donc évidemment, il sait que comme il n'a qu'un seul joker par session parlementaire, il va falloir composer des majorités.
Et Bouba, qu'est-ce qui a retenu votre attention effectivement là cette interview sur France 2?
En fait, moi, ce qui a retenu plutôt mon attention, c'est que j'ai compris justement que Emmanuel Macron, je sais pas, il vit sur quelle planète. Mais c'est une question que je me pose en fait. Je crois que est-ce qu'il est au courant ou est-ce qu'il jauge un tout petit peu la température de ce que vivent les Français aujourd'hui?
Il est détaché de la réalité.
Ouais. Non, mais aujourd'hui, les gens, ils souffrent. Mais on nous parle d'immigration, on nous parle de... Mais on peut en parler, on peut en discuter. Je crois que c'est pas le principal sujet des Français aujourd'hui. Les principaux sujets des Français aujourd'hui, c'est de quoi gagner, c'est de quoi manger, et puis c'est le pouvoir d'achat. Et les gens, ils veulent dévier ce sujet-là pour nous faire d'autres entraves. Je crois que c'est hallucinant quand même.
Vous dites la planète.
Planète Banque.
Jimmy Delidou,
des banquiers, il habite sur un monde qui s'appelle Planète Banque, vous voyez. Et en fait, Planète Rothschild, en fait, je crois qu'il est totalement déconnecté. Non, mais en fait, je reviendrai sur deux éléments.
Ah, il y a plusieurs clochettes, là, effectivement. Oui, vous pouvez y aller, une série de clochettes.
Il y a deux éléments qui m'ont particulièrement marqué dans son discours. D'abord, le salaire. Il y a trois éléments. Salaire, protectionnisme et retraite.
Oui.
Alors, d'abord, sur le salaire, il vous fait croire que, en fait, il peut pas indexer les salaires sur l'inflation sous prétexte que le rapport salaire-prix poserait un problème. En gros, vous augmentez les salaires, forcément il y aurait une inflation, il y aurait une augmentation des prix pour capter la monnaie, forcément, et qui engendrerait une augmentation des salaires, qui augmenterait les prix, etc., etc. On s'en sortirait plus. Seulement, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut intégrer un troisième terme à l'équation, qui est le profit impérialiste, le profit du capital. C'est-à-dire que si vous intégrez le profit du capital, c'est un peu comme ce qui s'est passé en mai 1968. En fait, quand les travailleurs étaient dans la rue, on a tout bloqué, 10 millions de grévistes. À la fin, il y a eu 33% d'augmentation du SMIC d'une manière immédiate. Ça veut dire qu'en fait, ils ont fait payer les profits du capital. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu un amendement. Je suis pas de la NUPES, mais la NUPES avait proposé un amendement qui consistait à taxer les surprofits. Monsieur Macron et ses copains l'ont pas accepté, parce que c'est pas leur objectif. Parce que leur objectif, c'est enrichir les riches et appauvrir les pauvres.
Alors,
ensuite, sur leur retraite, juste sur leur retraite quand même.
Allez-y.
Parce qu'il a fermé la porte aux fédérations syndicales. Et il y a une confusion. Il faut bien faire comprendre à nos auditeurs la différence entre l'âge de décote et l'âge à taux plein. Attention, vous avez une différence entre l'âge légal et l'âge où vous partirez à taux plein. Même si vous êtes à l'âge légal de départ si vous êtes libérable du travail. Mmh. Vous êtes libérable du travail, mais sur la base d'une décote, vous perdez du fric. Ça veut dire que vous allez travailler bien au-delà de 65 ans, mmh, parce que c'est progressif. Et donc, il a surtout fermé la porte à toute discussion avec les formations syndicales. Mmh. Donc là,
c'est votre
dans
sentiment
les mois qui viennent, bon, oui, mon sentiment, c'est que dans les mois qui viennent, il va se retrouver face à un mur social, parce que personne ne veut de cette réforme qui est totalement injuste, cette réforme de la retraite qui est totalement injuste. Allez, et injustifiée.
Justement, on continuera d'en parler, vous le savez, c'est le but aussi des informés, c'est de continuer à suivre l'actualité. Contre le troisième 49.3, vous savez, LFI va déposer une motion de censure, sauf que les écolos, eux, refusent. Alors, au sein de la NUPES, il y a beaucoup d'avis qui divergent, hein, sur cette motion. Et les écologistes qui suivent pas, tandis que le PS et le groupe et d'autres groupes ont annoncé leur intention, mais bon, elle n'est pas claire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe effectivement contre le troisième 49.3, Minsa?
Bah, j'ai l'impression que la NUPES est en train de s'éparpiller quelque part. Il y a, on le savait déjà, ce rassemblement. Moi, j'ai toujours appelé la gauche à se rassembler, mais on a bien vu que ça s'est fait quand même sur un accord électoral plus que politique. On le sait depuis le départ, depuis le premier jour des négociations entre les différentes composantes, qu'il y avait quand même des écarts sur tout un tas de sujets. Et aujourd'hui, on est en train de faire le constat de ces divergences internes. Et donc, le problème, c'est combien de temps tout ça va durer. Et j'ai quand même l'impression que Emmanuel Macron, qui a bien compris qu'on allait se diriger vers une dissolution. Je vois pas comment le quinquennat peut tenir comme ça dans la durée avec 49.3 sur 49.3 de manière systématique. Ce qui risque de se produire, c'est que la dissolution arrive au moment où la NUPES n'est plus en état d'engager une campagne électorale législative dans de bonnes conditions, et ce qui pourrait profiter à la fois au Rassemblement National, qui pourra à cette occasion embarquer certains sièges républicains aujourd'hui, et d'autres finiront sans doute par s'inscrire dans une
majorité présidentielle. Alors Ibouba, on voudrait vous écouter.
Ouais, je crois qu'aujourd'hui la NUPES a intérêt plutôt à ne pas rentrer dans ce jeu-là, ce tapis nauséabond qu'on lui déroule, en fait, en quelque sorte. Parce que si toutefois qu'il n'y a pas cette fusion ou cette entente qui devait coexister pour essayer donc de mettre cette cohésion ou cette fédération typique, afin de faire face à une situation, parce que 49.3, d'accord, je suis entièrement d'accord, mais ça ne pourra pas continuer. En fait, il y a un certain moment donné pour les motions de censure, donc il faudra voter. Donc, et là, maintenant, c'est là où il y aura effectivement donc gain de cause à jouer. Est-ce que maintenant, cette solidarité qu'on voit aujourd'hui avec l'UNIPS, est-ce que nous allons toujours la retrouver?
Ça, c'est sûr, c'est ce que disait Amine.
Ça, c'est notre problème.
Ouais. Voilà. Jimmy Delidou.
Oui, alors non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 49.3 n'est pas un moyen de contrôle parlementaire, en fait. Hein. C'est un moyen d'interpellation.
Contre le pouvoir.
Voilà, c'est tout. Et comme vous connaissez mon avis là-dessus, les parlementaires actuellement, quelle que soit la formation politique, restent une opposition acceptable ou opposition contrôlée par la bourgeoisie monopoliste.
C'est une arme d'opposition.
Donc, ils font 49.3 pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais au final ils sont là pour faire. Voilà, ils sont là pour faire ce que l'exécutif leur dit de faire. Et ils gigotent un petit peu, comme un enfant devant ses parents gigote quand il n'est pas content. Mais au final, l'enfant,
il a raison, Amine Saïd. Amine Saïd, il dit quoi? Il dit effectivement qu'il y a une espèce de division, ils sont un peu éparpillés. C'est pas faux.
Mais ils demeurent dans l'opposition.
Hein. Ouais, ils demeurent dans l'opposition.
Ça arrange pas l'affaire d'Emmanuel Macron. S'ils étaient vraiment dans l'opposition.
Sauf que là, les écolos disent non.
Non, mais s'ils étaient vraiment dans l'opposition, ils feraient ce qu'il faut pour appuyer les luttes sociales. Ils feraient ce qu'il faut pour vraiment. C'est un jeu parlementariste, un verbiage qui reste que du verbiage. Et la lutte extra-parlementaire, elle est tout aussi importante, voire plus importante que la lutte parlementaire.
Allez, on se retrouve dans une poignée de minutes, 19h16. On marque une pause et on se retrouve, on va parler de Covid-19. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui balance. Bon, était-ce évidemment son rôle maintenant de le faire? A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant.
Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 19h24 précisément, et c'est la dernière ligne droite des informés avec Amine Sarah, les informés avec Ibouba et les informés avec Jimmy Dalidou. Messieurs, je voudrais qu'on traite de ce sujet, le Covid-19, les vérités d'Agnès Buzyn sur la gestion de la pandémie. Elle balance, hein, l'ex-ministre de la Santé, bon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que moi, j'ai le souvenir quand même quand elle était ministre de la Santé, il s'en est passé des choses. Et elle a même fait une déclaration, tout le monde me disait que j'étais folle. Bon, qu'est-ce qui lui arrive à Aminsa, justement, à Nesbizan?
En fait, elle se défend, tout simplement. C'est qu'elle est
mise en examen pour danger de la vie d'autrui.
La Cour de justice de la République. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'elle soit la seule à porter
le chapeau. Elle dit qu'elle avait prévenu, elle avait tout dit, etc.
Alors, pour l'instant, ce sont ses déclarations. On verra ce que l'enquête, en tout cas, va amener comme révélation. Mais ce qui est sûr, c'est
qu'elle dit tout le monde s'en foutait.
Moi, je ne crois pas qu'elle doit être seule responsable. Il n'est pas concevable qu'une ministre, dans une période comme celle-là, avec un portefeuille aussi important, ne puisse pas être en contact direct avec le président de la République pour l'alerter de la situation. Comment le Premier ministre n'est pas au courant? Comment le secrétaire général de l'Élysée, qui est le chef d'orchestre de l'ensemble de l'entourage du président de la République, n'est pas en capacité de transmettre le bon niveau d'information au président de la République? Ça, je n'arrive pas à y croire. Et donc, je pense qu'il y a des responsabilités, parce que avec un ministère aussi important, comment une ministre peut prendre des décisions sans que ce soit ni validé, ni à minima pris en considération par le Premier ministre? Je n'y crois pas.
Vous y croyez pas?
Non, j'y crois pas.
C'est faux, c'est ça que vous êtes en train de me dire?
Non, je dis qu'il y a d'autres responsabilités et je ne crois pas que je suis pas en train de dire qu'Agnès Buzyn a raison sur tout. Je dis que dans les déclarations qu'elle a faites dans le journal Le Monde il y a quelques jours, il y a des choses qui posent question. Elle dit avoir envoyé un certain nombre de SMS. Alors déjà que pour des questions aussi importantes de sécurité publique, de santé publique, on ait des contacts par SMS, ça me pose quand même un problème. Moi, je pensais que quand il y avait ce genre de situation, on faisait une réunion de crise, on se voyait, puis on discutait entre ministres, entre présidents de la République, etc., pour dire voilà, la situation c'est celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Non, visiblement, elle n'arrivait pas à joindre pendant 15 jours le président de la République. Ça pose un véritable problème.
Eh bien, Ibouba.
Ouais, je crois que la Covid avait donc sa certaine particularité, en quelque sorte, on peut quand même l'octroyer cela. Mais c'est qu'aujourd'hui, ce que je comprends pas, c'est qu'il faudra comprendre plutôt pour ce ministre-là, c'est qu'il faudra comprendre justement qu'elle est en train de se dédouaner. Elle veut pas porter tout seul le chapeau et elle a parfaitement raison. Et là, Aminsa, je rejoins Aminsa pour ce qu'il vient de soutenir tout à l'heure comme thèse. Il faudrait effectivement que ces propositions et que ces défenses soient validées. Et ça doit être validé par qui? Par le CACIC, effectivement, donc qui est là, qui suit les choses, parce qu'il faudrait trouver effectivement des clés, trouver des idées les plus émancipatrices, parce que la Covid c'était ça, pour essayer donc de répondre spontanément, ce qui n'est pas du tout évident, donc d'où peut-être ces histoires de SMS et de trucs, donc je peux comprendre tout cela, mais c'était une certaine particularité. Il faudra avoir cette lecture-là de cette particularité donc du Covid et Jimmy. Que bon, voilà, c'était pas du tout facile.
Jimmy Dalidou.
Oui, alors je pense pas que ce soit un problème de personnage, c'est un problème sanitaire, donc forcément économique, politique et social. D'abord, donc il y a plusieurs responsables de ce qui s'est passé. Le deuxième élément qui me pose problème, c'est que entre les raffineries qui sont en grève et ils ont du mal à faire partir les stocks d'urgence et entre le moment où avec Agnès Buzyn qui les prévient et qui réagissent pas. Et on a l'impression que notre gouvernement est long à la détente, en fait. J'ai l'impression que
il est dans une clochette.
Les agences McKinsey.
Une clochette.
Vous avez remarqué, en fait, les agences McKinsey sont plus informées de ce qui se passe en France que notre propre gouvernement. Ouais, ça me pose un véritable problème, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, ils sont longs à la détente. On les prévient qu'il y a un problème, ils s'en foutent. On leur dit que les salaires ne vont pas, ils s'en foutent. On leur dit qu'il va y avoir une lutte sociale qui sera électrisante, ils s'en foutent. On leur dit que les Français souffrent, ils s'en foutent. Et en plus, il s'énerve quand il fait une interview. Bon, moi, je dis qu'à un moment, il faut qu'on tape, que nous, le peuple, on frappe du poing sur la table et nous prenons en main notre avenir politique, nous-mêmes.
Merci à vous. Et justement, Aminsa, vous vouliez intervenir sur deux événements oui. que vous organisez.
Oui, tout à fait, mon cher Adil. Alors, la première chose, c'est que demain, vous savez, je suis vice-président d'une association d'élus. Et donc, demain, on organise une conférence débat autour du thème de l'art et de la culture. Donc, ce sera à Versailles. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux de l'Association des élus de France, donc vous pouvez aller regarder. Et donc tous les élus, évidemment, de France et de Navarre sont invités à nous rejoindre. Et
ça, c'est le premier point.
Ça, c'est le premier point. La deuxième, ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de l'affaire du petit Yanis. Je voudrais prendre juste quelques secondes pour sensibiliser, informer au sujet d'un rassemblement qui aura lieu donc le 6 novembre prochain, place de la République, en soutien à la famille de Yanis, 8 ans, décédé en février dernier après avoir été percuté puis traîné sur plusieurs mètres. Après une enquête bâclée et un procès clément, la conductrice se voit condamnée à du sursis et pourra continuer de conduire à sa guise. Et donc l'objectif de ce rassemblement, c'est à la fois de témoigner un soutien à la famille, mais également pour dire non à cette justice clémente en faveur de certains et au moment où elle fait preuve de beaucoup de sévérité à l'égard d'autres. Donc le 6 novembre prochain, tous place de la République pour soutenir la famille et pour exiger que justice soit faite pour Yanis.
Merci Aminsa, élu sur la Farkan. Ville de la Courneuve. Merci à notre journaliste Ibouba. Merci. Au plaisir. Merci à notre représentant syndical CGT, mais également auteur, Jimmy Dalidou.
Bisous, bisous.
Eh bien, aux manœuvres, justement, à la réalisation, on a un chef d'orchestre ici, c'est Anthony. Merci Anthony, merci aux nombreux auditeurs. Comme chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est à vous, évidemment, qu'on le doit. Un grand merci à vous. Bilal Nedman, Time Sport, 20-21. Vanessa, à 21h. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.